Radio Ondaine et la Frappenaloire vous présentent SOS Nature Environnement.
Du fait de notre influence quotidienne sur la nature qui nous entoure, nous favorisons le développement d'une faune généraliste dont les populations s'adaptent à l'étalement urbain. Ce retour de la nature en ville suppose de reconsidérer la notion de partage des milieux dont nous nous sommes depuis toujours attribués la propriété. C'est dans cette optique que la Frappenaloire a lancé la campagne SOS Nature Environnement afin de proposer des actions favorisant une meilleure cohabitation avec la nature qui nous entoure.
Bonjour Kevin. Depuis le mois dernier, sur la route que j'emprunte tous les jours pour me rendre chez moi, je m'aperçois que je vois plein de petits animaux écrasés. J'ai pu m'arrêter hier afin de les observer de plus près et il semblerait que ce soit de petits lézards. De quel type d'espèce peut-il s'agir ?
Alors bonjour Nicolas. Donc il faut savoir dans un premier temps que le mois de février, mars et avril constituent les périodes maximales de migration des amphibiens. Donc les petits lézards dont tu me parles, à mon avis, ne font pas partie du groupe des reptiles, donc lézards et serpents et tortues, mais plutôt du groupe des amphibiens, et plus particulièrement de l'ordre de ce qu'on appelle les urodèles. Donc ce sont les amphibiens qui possèdent une queue, contrairement à leurs cousins, qu'on appelle les anours, et qui vont être ceux qu'on connaît mieux, les grenouilles, les rainettes, les crapauds, etc.
Alors plus précisément, quelles espèces font partie de ce groupe des urodèles ?
Alors dans les urodèles, on retrouve notamment les salamandres et les tritons. Donc en France, on n'a qu'une espèce de salamandre, enfin... une espèce, on va dire deux espèces, mais en tout cas dans le département, on n'en a qu'une qui s'appelle la salamandre tachetée, que tout le monde connaît, 15 à 20 cm maximum de longueur. Et c'est celle, le petit lézard, donc du coup, qu'on appelle lézard, mais qui finalement est un amphibien, qui va être jaune fluo et noir. Donc avoir cette coloration vraiment différente qui constitue en fait un avertissement contre les prédateurs. Parce qu'en fait, ce petit animal-là possède ce qu'on appelle des glandes parotoïdes qui vont se situer juste derrière au niveau des oreilles, derrière les yeux, afin de libérer des sécrétions toxiques en fait, contre les prédateurs qui vont les ingérer essentiellement. Donc ces sécrétions-là sont totalement inoffensives pour l'homme. Elles agissent uniquement par contact avec les muqueuses. Donc c'est vraiment que si on touche une salamandre, ce qui est normalement interdit par la loi. Mais bon, voilà, un enfant, par exemple, peut ne pas savoir ça et toucher une salamandre, se frotter les yeux ensuite. Bon, voilà, ça va enchaîner une réaction lacrymale. Voilà, ça va le faire pleurer pendant un petit moment, ça va piquer les yeux, mais rien de méchant. Il suffit de rincer les yeux sous l'eau et il n'y a aucun risque ensuite. Pour une petite anecdote, la salamandre bénéficie d'une petite légende du Moyen-Âgeuse, en fait, à l'époque. On pensait que la salamandre naissait du feu parce qu'elle sortait de l'âtre des cheminées des gens du coin. Et en fait, non, ce n'était pas du tout le cas. C'est juste que la salamandre recherche des endroits frais et humides, notamment souvent sous les tas de bois. Donc, elle occupait les fagots qu'on disposait près de l'âtre. Et lorsqu'on allumait le feu, tout simplement, elle fuyait la chaleur, et ce qui lui donnait l'impression qu'elle sortait du feu, alors qu'en fait, pas du tout. Non. Donc voilà, c'est une espèce qui est essentiellement terrestre une fois adulte, mais qu'on appelle, qu'on dit ovovivipare, donc comme certains poissons, comme les requins par exemple, et certains reptiles et invertébrés. C'est-à-dire qu'en fait, ovovivipare, ça veut dire qu'il va y avoir une éclosion interne des œufs, ce qui fait que lorsque l'animal va mettre bas, ce sera directement des petites larves qui, elles, vont être strictement aquatiques et vont se développer vraiment dans les petites mares, dans les sources, dans les lavoirs, dans les endroits un petit peu restreints, clos et frais, toujours. Voilà, et c'est une espèce, j'ai oublié de le dire, essentiellement forestière qui va se promener donc, dans les bois mixtes ou de feuillus qui seront toujours frais et humides.
Et quelles sont les différences avec les tritons ?
Alors les tritons, du coup, c'est un autre groupe d'espèces. On en retrouve trois principalement dans le département. Donc on a par exemple le triton palmé, qui est le plus commun, qui va être aussi le plus petit, qui mesure entre 6 et 10 cm, et qui va avoir un ventre orange pâle. Donc ce qui caractérise les tritons, c'est souvent une coloration assez vive. Donc lui n'a pas de coloration assez vive, mais il a quand même un ventre orange assez, assez remarquable. Ensuite, son cousin va être le triton alpestre, qui mesure entre 7 et 11 cm, et lui va avoir vraiment, notamment pour le mâle, un ventre orange fluo. Mais vraiment, ça se voit très très bien, qu'il soit en phase terrestre ou en phase aquatique. Et le plus gros des tritons, c'est donc le triton crêté, qui est aussi le plus en danger actuellement, qui va mesurer entre 9 et 15 cm, donc quand même plus petit qu'une salamandre, et qui va avoir un ventre jaune fluo, donc de la même couleur en fait que la salamandre. C'est pour ça qu'on peut les confondre de temps en temps. Les tritons, par contre, pour le coup, sont vraiment totalement inoffensifs pour l'homme, parce que tout simplement, ils n'ont pas de glandes toxiques comme la salamandre peut avoir. Et ils sont beaucoup plus aquatiques que la salamandre. Ils vivent dans l'eau plus de la moitié de l'année, où ils vont se développer, se reproduire, pondre des œufs, etc. Il faut savoir que ce soit la salamandre tachetée ou les tritons, ce sont vraiment des espèces utiles à l'homme, c'est parce que ce sont de véritables régulateurs voilà, des populations d'insectes qu'on peut retrouver dans nos margues, comme les moustiques ou les larves d'insectes aquatiques, etc.
Alors pourquoi ces salamandres et ces tritons s'avèrent utiles à traverser la route à cet endroit ?
Alors comme je te le disais au début de cette intervention, les mois de février, mars, avril sont les périodes maximales de migration des amphibiens. Alors pourquoi migrent-ils ? Tout simplement parce qu'ils quittent leurs habitats hivernaux, donc qui vont essentiellement être des forêts pour la salamandre par exemple, des boisements, des friches arbustives, des buissons, etc. pour rejoindre en fait leur zone de reproduction. Donc ils sont toujours des points d'eau, que ce soit la salamandre ou les tritons, ils vont se rejoindre en fait à une zone, donc ça peut être des mares, donc des milieux stagnants, des zones humides ou des ruisseaux pour la salamandre, etc. Et c'est à ce moment-là, en fait, sur cette traversée-là, qu'en fait, on a généralement l'homme est venu et a créé des routes. Et du coup, entre le point d'hivernage et le point d'estivage des animaux. Et du coup, bah, tout simplement, voilà, à la même période, ils effectuent leur migration pour aller se reproduire. Et les écrasements sont extrêmement importants. Pour les salamandres, on observe également un deuxième pic qu'on n'observe pas forcément chez les tritons, qui a surtout lieu en octobre et en novembre lors de la migration en fait, de retour. Bon, tout simplement, ils ont fait l'aller au printemps, ils font le retour à l'automne pour rejoindre en fait, les gîtes hivernaux.
Alors que dois-je faire ou que devons-nous faire plutôt pour arrêter ce massacre et arrêter de les écraser ?
Alors à l'échelle d'un individu, on peut malheureusement pas faire grand-chose parce que voilà, il va falloir déployer des moyens qui supposent de contacter les communes, de contacter les services des routes, etc. ou les associations de la nature. Et c'est justement ce que j'invite les auditeurs à faire et toi-même, Nicolas. La meilleure action en fait consiste à contacter donc le service SOS Nature. Donc je rappelle l'adresse internet, donc www.sos-natureenvironnement.fr. Le E de nature et environnement étant conjoint. Parce qu'en fait, au travers de ce site-là, une fois que vous m'aurez contacté, moi je vais pouvoir localiser avec vous le site en question, donc la zone où on peut retrouver l'écrasement, et essayer d'identifier les espèces déjà, si vous pouvez prendre des photos de voilà, c'est pas des photos très ragoûtantes, mais des photos de l'individu écrasé par exemple. À ce moment-là, moi je vais pouvoir donc identifier l'espèce, localiser la zone, et me rapprocher de la commune ou du département, des services du département, afin de mettre en place des mesures. Donc les mesures peuvent être totalement différentes hein, si c'est une zone à fort enjeu, donc notamment comme je le disais tout à l'heure le triton crété qui est une espèce vraiment en danger dans le département et dans la région. À ce moment-là, on va peut-être pouvoir déployer de gros moyens. Donc ça peut être ce qu'on appelle, vous en avez certainement entendu parler, les crapauducs. C'est des systèmes vraiment très onéreux où on va creuser, faire une tranchée au travers de la route afin que les amphibiens puissent passer avec des systèmes de barrières sur les côtés pour les concentrer dans ces buses-là, pour qu'ils puissent traverser. Ça, c'est vraiment dans les cas les plus alarmants. Ensuite, quand on a une zone assez concentrée de passage d'amphibiens, on va pouvoir mettre en place des choses un peu moins onéreuses, donc tout simplement des barrières amphibiens, donc en géotextile, avec des petits piquets en bois. Et si le milieu est propice, à ce moment-là, on peut carrément en fait créer une mare du côté hivernal, enfin du côté ouest, on va dire, de la zone, pour que en fait les amphibiens se reproduisent directement et n'aient pas à traverser la route. Donc on crée quand même la barrière pour éviter qu'ils soient incités à traverser la route et on les redirige vers cette mare-là. Si le milieu n'est pas propice à cela, à ce moment-là, on met en place ce qu'on appelle des trous dans des seaux qu'on jalonne tout le long de la barrière et en fait les amphibiens vont suivre la barrière de géotextile et tomber dans les seaux. Et à ce moment-là, là par contre, ça va demander beaucoup de main-d'œuvre parce que tous les jours, il faudra aller récupérer les amphibiens tombés dans les seaux pour les aider à traverser. Donc c'est une assistance à traverser. Et enfin, si tout ça n'est pas possible, si c'est sur un trop long tronçon de plusieurs kilomètres ou si les enjeux ne sont pas si forts que ça, on peut à ce moment-là mettre juste des panneaux de signalisation pour inciter les conducteurs à ralentir, à modérer leur allure et les informer en fait sur ce qui est mis en place à cet endroit-là.
Alors, comment se portent les populations de salamandres et de tritons ?
Alors, comme je le disais, ce sont des espèces vraiment très fragiles, discrètes aussi, donc c'est pour ça qu'on les voit peu souvent, à part justement quand elles sont victimes d'écrasement. Et elles sont vraiment en déclin, car elles sont menacées, surtout, donc, comme je le disais, le triton crêté, qui est signalé donc, sur la liste rouge régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, en danger. Donc, c'est des espèces qui sont menacées par quoi ? Tout simplement par la fragmentation des habitats, comme c'est le cas avec la situation dont tu me parles là, avec le risque d'écrasement, parce qu'on a créé des routes qui traversent des forêts dans lesquelles la salamandre habitait, des routes qui traversent des milieux bocagers dans lesquels le triton crêté se déplaçait. Donc évidemment, on assiste à un écrasement quand ces espèces-là essaient de rejoindre leur milieu de reproduction. Ensuite, c'est aussi du fait de la modification des pratiques culturales, parce qu'on assiste vraiment à un abandon, voire un comblement ou une pollution des mares qu'on peut avoir sur le territoire en zone rurale, avec remplacement du pâturage par des cultures vraiment intensives, donc céréalières, maïs, etc. Et en plus, on assiste aussi à une disparition des haies qui constituent vraiment des corridors écologiques qui vont relier les différents points d'eau pour assurer le transit des espèces entre les points d'eau et entre les milieux de reproduction et d'hivernage. Et enfin, la troisième menace qui n'est pas négligeable non plus, c'est la prédation par des espèces qu'on appelle exogènes, donc qui ne sont pas de chez nous, comme la perche au soleil, les écrevisses américaines, etc., qui vont vraiment en fait aller prédater surtout les individus jeunes, ce qui va vraiment bouleverser les dynamiques de population et amener à mettre en danger ces espèces-là. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que les urodèles, du coup, ont été protégés nationalement. Donc c'est ce que je le disais tout à l'heure, on n'a pas le droit donc, de détruire l'habitat, de mutiler l'animal, de le capturer, même si c'est temporairement, de le perturber intentionnellement et d'avoir une atteinte aux œufs et aux nids de ces espèces-là.